C'est vraiment un privilège pour moi d'apporter la parole ce dimanche de Pâques. Vous savez que Pâques, pour un croyant, c'est la plus belle fête qui peut pas nous arriver. En fait, Pâques, c'est là où notre foi prend tout son sens et que c'est là que notre foi a toute la puissance. Parce que la Pâques, vous savez, on fête la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait la différence entre toutes les autres prophètes, toutes les autres religions. C'est parce que Jésus n'a pas juste proclamé qu'il était le Messie. Jésus l'a prouvé en mourant sur une croix et en ressuscitant. Et sa résurrection est la preuve qu'il est le Fils de Dieu, car juste Dieu peut ressusciter quelqu'un. Alors, Pâques, c'est la plus belle des fêtes. Mais le titre de mon message, peut-être que je vais vous surprendre. Le titre, c'est « Crois-tu vraiment que Jésus est ressuscité? » Dis à ton voisin à droite et à gauche, pose-lui la question, là, yeux dans les yeux, masque dans le masque, et dis, tu crois ça vraiment, toi, aujourd'hui, au 21e siècle, qu'un gars qui a marché sur la terre, qu'on l'a crucifié, puis que 3 jours après, il est ressuscité, puis il a réapparu? Avoue que je vous motive, hein? Je suis ici pour vous démotiver. Élise a dit que ça va être un jour de fête. Oui, ça va être un jour de fête parce qu'on va démontrer que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Et l'histoire qu'on va regarder ensemble, peut-être c'est une histoire que vous connaissez. Et ça, c'est un récit qui commence lorsque tu as deux hommes qui sont sur le chemin que s'appelle le chemin d'Emmaüs. Ils s'en vont vers la ville d'Emmaüs. Ils sont à 11 kilomètres de Jérusalem. Pendant 11 kilomètres, ils vont commencer à échanger l'un avec l'autre. Et en fait, ces deux hommes-là, c'était des disciples de Jésus. Ils l'avaient connu, ils l'avaient vu agir, ils l'avaient aimé, mais aussi ils l'ont vu se faire crucifier, mourir entre deux brigands. Et en plus, l'histoire nous dit qu'ils avaient entendu des femmes rapporter que le tombeau était vide, mais malgré ça, ils marchent sur ce chemin-là, l'air découragé. En fait, ils étaient aveuglés, parce que tout ce qu'ils ont vécu, ils étaient aveuglés, ils ne pouvaient pas voir vraiment que Jésus était ressuscité, parce que eux, dans les faits, Jésus était mort de façon honteuse entre deux brigands. Et en fait, c'est le fait que Jésus était mort, qu'ils ne pouvaient pas croire qu'il était ressuscité, qui a tué en eux tous les espoirs. Et c'est pour ça que croire en la résurrection d'une façon émotive, émotionnelle, mais aussi d'une façon rationnelle, nous fait vivre, croire, espérer en tout ce qui est possible. Parce que si Dieu est capable de ressusciter quelqu'un d'entre les morts, il peut ressusciter tout ce que tu veux dans ta situation. Il peut ressusciter une situation émotionnelle qui est brisée, une situation physique si tu es malade, parce qu'il est capable de ressusciter les choses qui sont mortes. Et c'est sur ce chemin-là, nous allons voir ensemble pourquoi ces deux hommes étaient incapables de reconnaître Jésus. Pourtant, ils le connaissaient. Pourtant, ils l'avaient vu agir. Et moi, je n'ai pas de jugement pour ces hommes-là, parce que tu dis franchement, ils l'ont connu. Si on est honnête, et on va regarder ensemble, même si nous connaissons Jésus, même si nous avons expérimenté sa présence, il peut nous arriver d'être aveuglés par des situations et ne pas le voir vraiment ressuscité avec la puissance. Alors, on regarde. Ces deux hommes ne croyaient pas en la résurrection, premièrement, parce qu'ils sont aveuglés par leurs émotions. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, versets 13 à 17, ça dit, hein, « Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, à 11 kilomètres de cette ville. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » La version français courant dit « Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. » Et il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Et c'est fascinant parce que, imaginez-vous la scène, ils sont là, ils ont 11 kilomètres, les deux gars, puis je suis sûre, quand je vais être au ciel, je vais leur demander la question, de quoi ont-ils parlé? Je suis sûre qu'ils se sont dit, écoute, est-ce que c'est vraiment vrai ce que Jésus nous a dit? Oui, mais quand même, on l'a vu agir, on sait qu'il était... Oui, mais Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il est mort. On croyait en lui. On l'aimait. On a espéré qu'il était notre source d'avenir. Et là, en ce moment, il est mort. Ils ont de la peine. La Bible nous dit qu'ils étaient tristes parce qu'ils l'aimaient, parce qu'ils peut-être étaient déçus. Et c'est fascinant, une des choses, pourquoi ils ne pouvaient pas le voir, c'est à cause de leurs émotions. En fait, c'est, imaginez, pendant qu'ils sont tellement tristes, Jésus entre et marche avec eux, et eux, leurs yeux sont incapables de le voir. Ils sont incapables de voir Jésus parce qu'ils sont attristés, parce qu'ils sont déçus. Et si on est honnête, ça peut nous arriver aussi que lorsqu'on vit une situation qui nous attriste, qui nous fait mal, qui nous blesse, qui nous déçoit, on arrive à être aveuglé et ne plus voir que Jésus marche encore avec nous. La deuxième raison pourquoi ils n'ont pas pu le voir, c'est à cause des circonstances. La suite du texte nous dit, si on va dans la suite du texte, ça nous dit, j'arrive, dans la suite du texte, dans Luc chapitre 24, verset 18. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Et là, Jésus va leur dire, hein, « Quoi leur dit-il? » Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète. » Savez-vous que quand tu es tellement déçu, Jésus n'est à leurs yeux, ils sont aveuglés. Jésus n'est même plus le Messie, le roi des Juifs qu'ils attendaient, qu'ils ont cru. Jésus est redevenu un prophète. Et c'est la résurrection, quand ils vont comprendre la résurrection, qu'ils vont comprendre la puissance. Mais quand tu es déçu, quand tu ne vois pas, alors ils mettent Jésus même à un niveau de prophète. Et ils vont dire, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, il était un prophète. Les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voilà le troisième jour que toutes ces choses sont passées. Et là, ils sont pris dans les émotions, nos deux gars, et ils sont pris dans les circonstances. Les faits sont que de leurs yeux, ils ont vu leur espoir, leur roi cloué sur une croix. T'es pas le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé. Et la Bible a rajouté, ça fait 3 jours que c'est arrivé. Et si vous regardez dans la culture juive, dans la tradition, la notion de résurrection n'était pas tellement présente, mais une chose était certaine, c'est qu'après 3 jours, l'âme n'était plus dans le corps de la personne. Donc, pour eux, dans leur intelligence, dans les faits, c'était impossible que Jésus puisse ressusciter. Malgré que Jésus l'avait dit, malgré que les femmes sont allées au tombeau puis ont dit « le tombeau est vide ». Et malheureusement, chacun et chacune d'entre nous, lorsqu'on est pris dans des émotions et lorsqu'on est pris dans des circonstances de la vie, même si on sait, il se peut qu'on marche sur ce chemin d'Emmaüs et que nos émotions et les circonstances nous empêchent, m'empêchent de voir Jésus. Je pressais ce message-là aujourd'hui, je m'étais préparée. Et moi, je dis toujours, je ne suis pas ici pour vous impressionner, vous n'êtes pas ici pour m'impressionner, on est ici pour que Dieu vienne renouveler nos forces, notre joie. Et mon mari est témoin, on habite Sainte-Julie, donc je m'en ai sur Québec. Et cette semaine, en toute transparence, j'ai vécu une situation extrêmement difficile dans ma famille, pas avec mes enfants, dans un parent proche, très proche. Je n'irai pas dans le détail par souci de confidentialité pour lui, mais c'est des événements qui m'ont particulièrement blessée. Les faits, c'était injuste, puis les faits sont réels. Et c'était blessant, et la fin de l'histoire est injuste. Et là, je m'en venais de Sainte-Julie jusqu'à Québec, je me suis vue. Tu sais, Dieu nous fait vivre les choses. Je n'étais pas sur le chemin des Maïs, j'étais sur l'autoroute 20, mais je repassais dans mon cœur, voyez-vous? Il y avait les émotions, la peine, puis il y avait les faits. C'est vraiment injuste. Et, pour ajouter à l'histoire, je devais rencontrer cette personne-là hier matin. Et je me disais, qu'est-ce qui va se passer? J'étais un peu dans... Et là, mes émotions montaient, puis c'est comme si j'ai perdu de vue, pendant un instant, que Jésus marchait avec moi dans cette situation. Et c'est vrai, hein? Parce que c'était douloureux, puis parce que c'était pas juste. Et j'étais seule face à ça, puis je me suis comme emportée dans mon âme. Et j'ai finalement passé le pont de Québec, je me suis rendue au restaurant où cette personne-là m'attendait, Et Jésus m'a accompagné. Et je vous dis franchement que la situation a changé complètement. Lorsque tu mets ta foi dans la puissance de la résurrection, Dieu change les lieux de défaite en lieux de victoire. Pour ces disciples-là, la crucifixion, alors qu'ils marchent sur le chemin, la crucifixion, elle est vraie. Jésus est mort et ce moment-là est le pire lieu de défaite. Mais en fait, ça prend son sens lorsque leurs yeux vont s'ouvrir et qu'ils vont voir qu'en fait, la crucifixion était nécessaire à la victoire. Dieu, aujourd'hui, change tes plus grands lieux de défaite en lieux de victoire. Tu as peut-être l'impression que ce que tu vis est un échec. Dans ta maison, dans ta vie, peut-être dans ton futur, dans ton travail. Mais ce qui a l'air d'un échec, par la puissance de la résurrection, devient une victoire. Le triomphe de la croix. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi, mais moi, je dis « Amen à la résurrection ». Tu sais, t'emmènes avec moi. Amen. Dieu, prends-le par la foi. Dieu est capable, si tu es sur le chemin d'Emmaüs, de changer, d'ouvrir tes yeux. La troisième chose, pourquoi? Ils n'ont pas été capables de voir Jésus. C'est fascinant parce que Jésus est là. Ils ne le reconnaissent pas. La troisième chose, c'est leur incrédulité. Et dans le texte, chapitre encore 24, versets 22 à 27, ça dit, il est vrai, il répète, imaginez, c'est surréaliste, là. Ils sont là, Jésus est là. Puis ils vont dire à Jésus, c'est quand même vrai. Là, ils commencent à c'est quand même vrai. Que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées, s'étant rendues au grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur avaient apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Déjà, ça devrait être quand même commencé, il aurait dû commencer à croire, c'est peut-être vrai ce que Jésus nous avait dit, puisque des femmes l'ont rapporté. Bon. Déjà, à cette époque-là, on n'écoutait pas tellement les femmes, ce que les femmes disent. Bon conseil, messieurs, écoutez toujours vos femmes. Et je ris, mais c'est quand même vrai. Et les femmes disent, ils nous ont dit que le tombeau était vide. Ils ont dit en plus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont aussi allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais ils ne l'ont point vu. Arrêtez-vous un instant. Ils l'ont vu Jésus. Ils sont déçus les circonstances et même si on leur dit que Jésus est plus dans le tombeau, ils sont incapables de le croire. Ils sont incrédules. Et ça dit par la suite, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, Jésus ne mâchait pas ces mots. Hein? Donc je ne dirai pas la même chose ici à Charlevoix. Chers amis, voilà. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et il commença par Moïse et par tous les prophètes et il leur expliqua dans les Écritures tout ce qui leur concernait. Je veux te dire aujourd'hui, je veux me dire aujourd'hui que ma foi n'est pas basée sur mes sentiments, mes émotions, parce que les sentiments, ce que tu ressens, n'est pas toujours la vérité. C'est des émotions. Ma foi ne devrait pas être basée sur les circonstances, parce que ce qui avait l'air mort, en fait, était plus vivant que jamais. Ma foi devrait être basée sur ce que la parole de Dieu dit. Et c'est pour ça que Jésus, quand il a marché avec lui, avec eux, il a commencé à leur dire depuis Moïse, depuis les prophètes, tout ce que les Écritures avaient annoncé, que la venue de Jésus était annoncée depuis fort longtemps, sa venue, sa mort et sa résurrection. Et c'est pour ça que la suite du texte vont nous dire, hein, quand ils ont commencé à réaliser ça, ils vont dire, ils ont communié avec Jésus, ils sont entrés en communion, puis ils disent, c'est vrai, quand on marchait avec lui et qu'il nous racontait ce qui était écrit, notre cœur s'est mis à s'enflammer parce que ce qui est vrai, mes amis, ce n'est pas ce que tu vois. Ce qui est vrai, c'est ce que Jésus, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce qui est vrai. C'est les promesses de Dieu. Dieu a dit que par sa résurrection, il est allé chercher les clés de la mort. Il a effacé notre passé. Aucune condamnation, aucune honte. Ça, c'est la vérité. Le passé est derrière toi. Mais avec cette résurrection-là, il emmène un futur pour toi, un futur aujourd'hui. Il a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Il y a un futur. Il dit que nous sommes ressuscités avec lui et que nous siégerons dans les lieux célestes. Et si en ce moment c'est difficile, rappelle-toi que tu as accès au trône et qu'un jour, nous allons festoyer avec le roi des rois. Nous avons tout le lieu où il n'y a plus aucune larme, aucune crainte. Et c'est sur ces fondements qu'il faut croire en la résurrection de Christ. Et je vais faire rapidement, mais j'aimerais te dire que, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, si vous vivez au 21e siècle, vous êtes au 21e siècle avec moi, ça va? Vous vivez en 2022, OK, on est d'accord. On peut quand même se dire, là, sans se lamenter, que c'est quand même un moment sombre de l'humanité. On est d'accord là-dessus? On sort d'une COVID, sixième vague, après six, OK, je dirais pas plus loin, quand même sixième vague, n'est-ce pas? Et après ça, ben pour en rajouter, on était déjà sur les rotules. Je sais pas si vous écoutez les informations comme moi, mais quand tu regardes en Ukraine, c'est incroyable. C'est lourd. On sent dans la société une lourdeur. Et c'est fou parce que si tu as des collègues de travail, et je ne sais pas si ça vous est arrivé de dire, moi, je crois en Jésus-Christ. OK? Moi, je crois vraiment qu'il est mort et ressuscité. Ah ouais? Tu crois ça, toi? Et c'est fou parce que les gens vont te dire, ah, Jésus, c'est quoi ce Jésus? C'est une fable? C'est un mythe? Et à la limite, je vous dirais que je pense que la plupart des gens acceptent le fait que Jésus a marché sur cette terre. Mais il y a une chose entre croire que Jésus a marché sur la terre et que Jésus est ressuscité. On est d'accord? Et je veux juste vous dire, parce que j'ai regardé les faits, que les historiens, le fait que Jésus a marché sur la terre, les historiens affirment que Jésus a été un personnage historiquement reconnu. Donc, les gens qui vous disent, peut-être vos jeunes ados, vos voisins, vos collègues, « Ah, Jésus, pas vrai. » Non, la venue de Jésus, il est démontré, pas à partir des textes bibliques, à partir de textes historique que Jésus a bel et bien existé. Et savez-vous quoi? Sa résurrection est aussi démontrée de façon historique. Et j'aimerais faire rapidement, parce que c'est pas le but, mais si un jour, peut-être qu'aujourd'hui t'es pas sur le chemin d'Emmaüs, mais j'ai une grande prophétie à vous faire, mes amis. C'est certain, on se retrouve tous un jour sur un chemin d'Emmaüs où les émotions, les circonstances viennent nous ébranler. Et comme Jésus a fait aux disciples, il leur a rappelé ce qu'était la foi qui est basée sur les promesses, sur ce que Dieu avait dit. J'aimerais te donner rapidement, en rafale, 5 raisons pour dire à ton intelligence ou à ton voisin, 5 raisons qui prouvent la résurrection de Jésus-Christ. Es-tu avec moi? Puis quand l'ennemi va venir dans ton âme, puis qu'il va dire que tu penses que tu vas devenir aveuglé, puis que tu ne verras pas Jésus ressuscité, rappelle-toi que c'est un fait démontré historiquement que Jésus-Christ est vraiment mort et ressuscité. En rafale, première raison pour croire à la résurrection de Jésus-Christ, je vais aller vite. Et ça dit, en fait, il y a un docteur Craig, qui est un philosophe analytique, un théologien très reconnu, a écrit « Les récits de la résurrection dans le Nouveau Testament ont été qualifiés de fiction pieuse pendant un certain temps, le fruit de mythologie et de légende. » Et il disait « Il était grand temps que l'homme moderne s'en débarrasse. Toutefois, un changement remarquable s'est produit. Vers les années 1968, il y a eu un brusque changement d'opinion concernant l'historicité des événements importants mentionnés dans les récits de la résurrection de Jésus-Christ. Et savez-vous qui a emmené cette révolution-là sur l'historicité, la véracité que Jésus est vraiment ressuscité? Imaginez, c'est un juif, un théologien à l'Université d'Hébraïque de Tel Aviv, un juif orthodoxe. On est d'accord qu'un juif ne croit pas tellement à Jésus et ne croit pas encore moins à sa résurrection. Et ce juif-là est de réputation, une renommée internationale. Et il a écrit récemment, je suis convaincu sur la base des preuves historiques que Jésus de Nazareth est ressuscité des morts. N'est-ce pas surprenant pour un juif orthodoxe? Il va dire, il va conclure, il en conclut qu'à la lumière des preuves, le Dieu d'Israël a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il accepte le résultat du dimanche de Pâques, non pas comme une invention de la communauté des disciples, mais comme un événement historique. Et ça s'écrit dans son livre « La résurrection de Jésus, une perspective juive ». Et on arrive aujourd'hui à un renversement de situation. Alors, 5 raisons. Pourquoi croire en la résurrection, que Christ est ressuscité des morts? Premièrement, Jésus avait annoncé sa résurrection. Matthieu, chapitre 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Les deux boys sur le chemin d'Emmaüs, ils auraient dû se rappeler et se dire, c'est vrai, Jésus nous l'avait dit. Et ça s'est passé exactement comme Jésus l'avait dit. Deuxième raison pourquoi croire que la résurrection, ce n'est pas une invention des croyants. Deuxièmement, l'Ancien Testament l'avait aussi annoncé. David, dans le psaume 22, va prophétiser. Il va dire, bien qu'il ne savait pas les jours futurs, qu'il ne savait pas comment les choses allaient se passer, David va prophétiser ce qui sait, comment Jésus est mort. Il dira au chapitre 22 des psaumes, verset 17, « Car des chiens m'environnent. » Il va prophétiser, c'est comme si Jésus parlait. « Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. » Et ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements. David n'avait aucune idée que Jésus allait mourir de cette façon. Et ce qu'il décrit dans ce psaume, c'est exactement ce qui s'est passé des centaines d'années plus tard. Ce qui donne une véracité. Comment David pouvait le savoir? Le prophète Ésaïe aussi, un texte qui est incroyable, qui parle tellement, qui capsule tellement cette fête de Pâques. Ésaïe, chapitre 53, 2 à 9, il dit, « Il s'est élevé devant lui comme une plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat, en parlant de Jésus, pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'est exactement ce qui s'est passé le vendredi. C'est exactement ça, Pâques. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous étions comme errants. Et j'irai pas plus loin, mais dans la suite du texte, parce que je vais apporter un autre point, mais il a dit, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés du peuple. On l'a mis au sépulcre par des méchants, son tombeau avec le riche. Et c'est exactement ce que Ésaïe annonçait. Il annonçait la venue et la mort de Jésus-Christ jusqu'au détail dans le lieu auquel Jésus-Christ a été enterré. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet à vous qu'à moi, mais moi, ça me donne de la force dans mon intelligence, mais aussi dans ma foi, que Dieu, qui sait toutes choses, a inspiré des hommes pour déclarer ce qui allait prendre place. Et Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Troisième raison, le tombeau a été retrouvé vide. Et savez-vous quoi? Le corps de Jésus, encore aujourd'hui, tous les historiens s'accordent pour dire que le corps de Jésus n'a jamais été retrouvé. Dis à ton voisin, ta voisine, on n'a jamais trouvé son corps. Dis en arrière de toi, dis, c'est vraiment vrai ce qu'elle dit. Et imaginez une des plus grandes preuves, si c'était une supercherie, c'est certain que quelqu'un se serait levé pour dire « Oh, 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 on a trouvé le corps. » Nous n'avons jamais, le corps de Jésus n'a jamais été retrouvé. Les faits historiques, et c'est prouvé dans des annales de l'époque, que le tombeau où Jésus est enterré, on va le lire dans quelques instants, le tombeau a réellement été trouvé vide et qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Et dans les deux parties, les ennemis de Jésus, croyez-moi, qui ont dû chercher longtemps pour le, essayer de le trouver pour dire qu'il n'était pas vraiment ressuscité. Il y a des écrits qui ont resté. Et on va lire le texte ensemble. C'est peut-être un peu lourd. Je ne sais pas si ça vous inspire. Moi, ça m'inspire de me dire, on n'a jamais trouvé son corps. Il est vraiment ressuscité. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, regardez l'histoire. Le soir venu, arriva un homme riche appelé Joseph, originaire de la ville d'Arimathée. Lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla demander à Pilate le corps de Jésus. Alors Pilate donna l'ordre de lui remettre. Et Joseph prit donc le corps, l'enroula dans un drap de lin pur et déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler sur lui-même, pour lui-même, dans le roc. Puis il roula un grand bloc. Imaginez-vous la scène, là. Puis il roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du tombeau et il s'en alla. Il avait là Marie de Magdala et l'autre Marie assises en face de la tombe. Le lendemain, le jour qui suivait la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et des pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate pour lui dire « Excellence, nous nous souvenons que cet imposteur a dit pendant qu'il était encore en vie, « Après 3 jours, je ressusciterai. Fais donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce 3e jour. Il faut à tout prix éviter que ses disciples ne viennent dérober le corps. » On dirait qu'on lit un roman, c'est exactement la Bible, ce que j'étais en train de dire. Il savait ce que Jésus avait déclaré pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière supercherie serait encore pire que la première. Et Pilate leur déclara, d'accord, prenez un corps de garde et assurez la protection de son tombeau à votre guise. Ils se rendirent donc au tombeau et le firent surveiller après avoir apposé les scellés sur les pierres en présence des gardes. Et encore là, sans aller dans le détail, imaginez-vous la tombe. Ils mettent Jésus dans ce grand tombeau. Les historiens disent que la définition, la précision dans laquelle la Bible décrit ce tombeau de riches confirme que ça s'est exactement passé comme ça. Imaginez les scellés et imaginez que Jésus était il fallait vraiment le surveiller parce que c'était des hauts placés. C'était une garde d'élite qui surveillait. Ils ont envoyé les meilleurs hommes afin de pouvoir dire qu'il n'est pas vraiment ressuscité. Et cette garde d'élite là, disent qu'ils étaient, ils se relayaient à tous les heures. Et si vous lisez les évangiles, ils disent, les gars ont dit, on ne s'est jamais endormi. Et pourtant, la Bible nous dit que lorsqu'ils sont arrivés, la pierre, le scellé avait été brisé et la pierre qui était devant les historiens dit que c'était un homme impossible que deux femmes puissent rouler cette pierre-là. Et pourtant, tout le monde admet aujourd'hui que la pierre a été roulée, que le tombeau a été trouvé vide et que le corps n'a jamais été retrouvé. Et je suis certaine que si J.E. enquêtait là-dessus, ils arriveraient aux mêmes conclusions. Et c'est incroyable parce que même, j'ai pas le temps de le développer, mais si vous lisez dans la suite des textes, vous lirez à la maison dans Matthieu chapitre 28 verset 11, parce que je veux aller à la fin respecter le temps qui m'est alloué, mais même les ennemis des chrétiens. On dit, ils ont payé les gardes, puis on dit, dites que vous vous êtes endormis, parce qu'il n'y a rien qui peut expliquer comment le corps a disparu. Leur vie était menacée et ils ont pris l'argent et ont menti pour dire, oui, on s'est endormi. Et finalement, tout le monde a su qu'on n'a jamais retrouvé Jésus. Alors, une raison, pourquoi croire en la résurrection? Parce que Jésus l'avait dit, qu'il devait mourir, il l'avait annoncé. L'Ancien Testament l'avait prophétisé de Ésaïe à David. Troisièmement, les faits. Les faits sont que le tombeau est vide et que le corps n'est jamais retrouvé. La quatrième raison, et là je vais aller en... La quatrième raison, mes amis, c'est l'origine de la foi chrétienne. Si tu s'arrêtes un instant dans l'histoire... L'histoire est que Jésus avait, pendant 3 ans, avait dit qu'il était le Messie, qu'il était venu pour délivrer le peuple d'Israël. Mais si on est honnête, sans la résurrection, l'histoire se termine que, de façon honteuse, que Jésus est mort entre 2 brigands. Et si tu y penses, n'importe qui est un peu saint d'esprit, va pas commencer à aller de ville en ville dire que Jésus est ressuscité après une défaite cuisante comme ça. Et pire que ça, après la mort de Jésus, la Bible et l'histoire, les historiens disent qu'il y a eu une recrudescence de la foi, que la foi ne s'est jamais répandue autant. C'est complètement fou, parce que si le bonhomme est mort sur une croix de façon honteuse, pourquoi, dans la suite de l'histoire, les gens se sont mis à croire, ben voyons, oui, on va croire à Jésus, parce qu'en fait, au final, il est mort. Et pire que ça, ceux qui proclamaient la résurrection étaient prêts à mourir. D'ailleurs, ils sont pas juste prêts. Ils sont morts martyrs, crucifiés, persécutés. Si c'était des supercheries, si c'était des fables, en fait, si l'histoire, on l'avait maquillée pour que ça finisse en victoire, peut-être, mais l'histoire est maquillée pour finir en défaite. La seule explication, selon pas les croyants, selon les historiens qui disent que Jésus est vraiment ressuscité, c'est que Jésus est apparu aux disciples. Et c'est son apparition qui fait que les gars, ils ont dit, waouh, c'est vraiment vrai ce qui s'est passé. C'est vraiment vrai tout ce qu'il nous a annoncé. Alors, on va le proclamer et on est prêt à mourir pour lui parce qu'il est vraiment mort et ressuscité. Et c'est exactement ça aujourd'hui, ce que nous vivons. C'est la résurrection qui fait qu'on croit que Jésus est passé de la mort à la vie, que le voile a été déchiré, que tu as accès au trône de grâce, que tu peux dire oui, je crois qu'il peut transformer ma vie. Je crois qu'il peut changer ma destinée. Je crois qu'il peut intervenir dans ma santé. Je crois qu'il peut sauver mon fils, ma fille. Il n'y a rien d'impossible à Dieu parce qu'il est mort et ressuscité. Et c'est exactement la quatrième raison. J'avais plein de citations historiques. Si vous voulez les notes, vous les demanderez à Élise. Elle pourra vous les envoyer. Et la cinquième raison. La cinquième raison pourquoi on peut croire en la résurrection. C'est que Jésus agit encore aujourd'hui. Pourquoi je peux croire en la résurrection? C'est que Jésus encore agit aujourd'hui. Et c'est exactement ce qui est arrivé à nos disciples. Je vous ramène, pendant que peut-être, Julien, tu peux venir. Comme je dis, si les notes vous intéressent, toute cette exposition-là de l'historicité, c'est dans les notes. Élisa peut vous les partager si vous le désirez. Mais si vous voulez garder quelque chose aujourd'hui, pourquoi nous pouvons croire en la résurrection de Jésus. C'est que Jésus touche des gens. Jésus transforme la vie des gens. Jésus apporte l'espérance dans nos vies. Et le texte nous dit à nos deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, c'est lorsqu'ils sont entrés en communion que les yeux se sont ouverts et ils ont réalisé que Jésus ne les avait jamais abandonnés sur le chemin des émotions, des circonstances, que Jésus marchait à leur côté. Ils ont réalisé parce que Jésus leur a expliqué les choses qu'ils avaient prédites. Et c'est juste incroyable parce que ces deux hommes-là sont passés d'un état de déception, un état de défaite, et parce qu'ils ont vu Jésus ressuscité, la Bible dit de eux, ils ont appelé ces gens qu'ils bouleversent le monde. Deux gars qui ont douté, mais parce qu'ils ont cru que Jésus était ressuscité, leur destinée a complètement changé. Ils ont pris confiance. Ils ont cru, ils ont trouvé une mission à leur vie. Ils ont commencé à proclamer la parole et ont impacté, puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Jésus change des vies encore aujourd'hui. Et ça, c'est la plus grande raison de la résurrection. C'est la plus grande preuve de la résurrection. Vous avez entendu le témoignage de Monique Lépine? Elle est venue ici. Moi, Monique Lépine, je l'ai connue personnellement. Lorsqu'elle est arrivée à l'église, pour moi, dans ma vie, c'est un des plus grands miracles. Elle est arrivée en 1000 morceaux, une vie détruite. Et j'ai vu Dieu. Juste Dieu pouvait rebâtir avec tout ce qu'elle a traversé. Juste Dieu. Je l'ai vu rebâtir. Sa vie, malgré les déceptions, les émotions, malgré les circonstances, sa vie a complètement changé parce qu'elle a cru en la résurrection de Christ. Elle a cru que si Dieu pouvait ressusciter Jésus d'entre les morts, Dieu pouvait ressusciter sa vie. Vous avez peut-être vu ici Nouvelle Vie, Nouvelle Vie Charlevoix. Pasteur Sonia Massot, que vous avez vu probablement ces vidéos, Pasteur Sonia Massot, si on peut mettre la photo, peut-être Élise. J'étais avec elle. Pasteur Sonia Massot, c'est une femme incroyable. J'étais avec elle, c'est une femme de caractère. Moi, je pense que, je trouve que j'ai du caractère. J'ai trouvé chaussure à mon pied, hein, chérie? Et c'est une femme déterminée. J'étais avec elle juste avant la COVID aux Philippines. Et puis, on a porté la parole dans les bidonvilles. On a prêché la parole. On a vu Dieu agir dans des petites jeunes filles qui étaient abusées vraiment sur le dark web. Vous êtes de prostitution, d'images incroyables. Mais parce qu'une femme qui a décidé d'avoir à cœur, on est allé. Bien sûr, il y a d'autres gens qui vont là, mais je vous parle de mon expérience. Et on a vu Dieu agir dans ce pays-là. Et quand je me préparais pour ce message, j'ai dit, Seigneur, parle-moi, donne-moi quelqu'un que la résurrection a changé sa vie. Et Sonia, je la connais depuis fort longtemps, c'est mon amie. Et peut-être vous la voyez, hein, on l'a vu en Ukraine, on l'a vu avec un cœur généreux. Mais cette femme-là a été élevée dans l'église, son père est pasteur. Cette femme-là a marché fidèlement, rencontré un homme, s'est mariée, a eu deux jumeaux magnifiques. Si tu mets point la suite de l'histoire, tu dis c'est fantastique. Elle a eu ça, Dieu l'a appelée, puis maintenant elle parcourt le monde. Ça t'emmène. Hein, ça serait bien. Mais Dieu écrit droit avec des lignes courbes, voyez-vous. Sonia a eu son chemin d'Emmaüs. Son mari, découvert, même s'il était croyant, il a eu des difficultés, s'est éloigné de Dieu, est devenu un homme violent, l'a frappé, l'a battu, violent. Elle dit, je peux le dire publiquement parce qu'elle l'a écrit dans un témoignage dans mon livre. Il est obligé d'appeler la police, se protéger, quitter la maison, prendre ses deux jumeaux. Elle s'est retrouvée seule avec deux jumeaux adolescents. Juste ça, c'est amen. Je dis, Seigneur, ça prend une grâce de Dieu. Monoparentale. Imaginez le rêve brisé. Éduquer dans la foi chrétienne, croire que ton mari, qu'on va faire le ministère ensemble, que finalement, le rêve en mille morceaux. Vous savez, faire le ministère pour une femme, c'est déjà pas facile. Je vous parle sincèrement. Faire le ministère pour une femme divorcée, c'est encore plus difficile, honnêtement. Mais cette femme-là a cru en la résurrection de Christ. Elle est allée chercher sa force, sa foi, sa guérison. Et Dieu l'a aussi la rebâtie. Pièce par pièce, pierre par pierre. Et la résurrection de Christ est devenue sa fondation, de sa foi, mais la puissance aussi dans laquelle elle agit. Et cette femme-là, encore mono... Est-ce que sa vie est complètement parfaite? Encore monoparentale. Mais elle choisit de croire et elle avance. Et Dieu l'utilise et fait, on pourrait dire, comme on a dit dans le temps des apôtres, c'est une femme qui bouleverse le monde autour d'elle. Et si Dieu l'a fait sur ces deux gars sur le chemin d'Emmaüs, qui a transformé 180 degrés dans leur vie parce qu'ils ont cru que Jésus était mort, parce que Jésus leur a rappelé les événements et que c'était vrai. Si Dieu l'a fait dans la vie de Monique Lépine, complètement brisée, 180 degrés, Monique à 80 et plus partage encore l'Évangile. Mais si Dieu l'a fait dans la vie de Sonia Massot, une femme de la même nature que vous et moi, Dieu, peu importe la situation, d'un mariage brisé, d'un cœur de mère brisé, de deux gars que selon les faits, c'était impossible que Dieu intervienne. Et Dieu l'a fait. Et peut-être que tu as l'impression, comme ces trois personnages-là, que tu es dans un lieu de défaite, comme la croix avait l'air d'un lieu de défaite. Mais la croix, c'était le lieu de victoire. La croix dans ta vie peut être la situation. Dieu peut la changer en lieu de victoire.